en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Pour mettre nos horloges à l'heure, nous avons besoin d'un temps de référence. C'est le temps universel coordonné UTC. Celui-ci est calculé en permanence grâce aux horloges atomiques. Mais difficile d'obtenir une stabilité dans le calcul et le transfert du temps. Noël Dimarc, directeur du système de référence temps-espace, le CIRT, au laboratoire de l'Observatoire de Paris, nous livre les dernières avancées technologiques dans ce domaine au cours d'une communication donnée en février 2012 au Bureau des Longitudes. Pour suivre au mieux cette communication, nous vous invitons à télécharger le support visuel qui se trouve sur le site de Canal Academy et on retrouve sans plus tarder Noël Dimarc.
Je suis vraiment très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les travaux en cours et puis les grandes pistes de demain autour de la métrologie du temps et des fréquences. Et en particulier, ma présentation va adresser plutôt les aspects horloges atomiques et tous les moyens de comparer des horloges atomiques distantes, c'est-à-dire en utilisant des transferts de temps. Alors, dans ma présentation, après une brève introduction pour rappeler pourquoi on a besoin de références de fréquences plus performantes et de liens plus performants, c'est tout naturellement que je découperai ma présentation en deux gros blocs, deux gros morceaux, un sur les références atomiques de fréquences et puis un morceau sur les différentes techniques pour transférer des signaux métrologiques. Alors je commence par les besoins de références de fréquences de très très haute performance. En fait, l'utilisation de références de fréquences est très large, très variée dans beaucoup de systèmes, depuis des applications en physique très fondamentales, en métrologie très fondamentale, jusqu'à des systèmes presque grand public, comme le positionnement et la navigation par satellite. Et bien entendu, on imagine que l'amélioration de tous ces systèmes, de toutes ces applications, requiert à la fois des références de fréquence ou de temps, parce que suivant l'application, on a plutôt besoin d'avoir une fréquence ultra stable ou alors une échelle de temps de haute performance. Et souvent, l'horloge, elle est quelque part, elle est dans un satellite, elle est dans un laboratoire, et il faut être capable de transporter son signal avec le moins de dégradation possible. Et donc, tout naturellement, les développements visant à améliorer les performances des horloges sont faits en étroite association avec les développements qui visent à améliorer les moyens de transfert et de dissémination. Donc, parmi les applications phares d'aujourd'hui de la métrologie temps-fréquence de très haute performance, il y a évidemment la métrologie fondamentale avec des enjeux comme la redéfinition des unités du système international, en particulier l'unité de temps, la seconde, et la construction d'échelles de temps atomique internationales, le temps atomique international TAI ou UTC. Il y a évidemment le lien entre le temps et l'espace. Si on suppose qu'on connaît la vitesse de la lumière ou qu'on fixe sa valeur, mesurer le temps, ça revient à mesurer des distances. Et donc, avoir des systèmes qui fournissent des références de temps plus précises permet d'améliorer la précision dans la télémétrie, le positionnement, la navigation inertielle, évidemment dans tous les systèmes qu'on appelle GNSS, qui sont tous les systèmes qui ont un nom qui englobe les systèmes GPS, Galileo, GLONASS, etc. Sur Terre, on a des grands systèmes qui ont besoin d'être synchronisés, comme le DSN pour la navigation dans le système solaire, ou l'interférométrie à très longue base, le VLBI, et donc à chaque fois, on a besoin d'horloges de très haute performance et on a besoin de mesurer leur différence de temps. Une application qui est montée en puissance ces 20 dernières années concerne l'utilisation des horloges un peu comme capteur d'espace-temps, c'est-à-dire l'horloge ne sert plus de référence, mais on va placer des horloges dans des référentiels différents, on va mesurer leur différence de temps ou leur différence de fréquence, et le but de faire ça, c'est de faire des tests de physique fondamentale. Alors il y a différentes pistes pour faire ces tests. L'enjeu derrière, c'est de vérifier jusqu'où la théorie d'Einstein est valide, puisque toutes les théories modernes, en particulier celles qui cherchent à unifier la mécanique quantique et la gravitation, prédisent des violations de la théorie d'Einstein. Malheureusement, ces théories ne prédisent pas à quel niveau la théorie d'Einstein va être violée. Donc on a besoin de faire des mesures de plus en plus précises pour voir à partir de quand la théorie d'Einstein ne sera plus valide. Donc il y a différents types de tests, des tests de relativité restreinte, de type Michelson-Morley, un test qui est très à la mode, qui vise à voir si les constantes fondamentales de la physique sont constantes, ou est-ce qu'elles dérivent, ou est-ce que leur valeur dépend de l'endroit où on fait l'expérience. Et donc, parmi toutes les constantes qui sont vérifiées, il y a une constante particulière qui s'appelle la constante de structure fine, alpha, dont on peut tester les dérives avec les horloges, simplement parce que, comme on va le voir, la fréquence de l'horloge est une fréquence de transition atomique. Et donc, si alpha dérive, la fréquence de la transition dérive, et donc la fréquence de l'horloge va dériver. Donc aujourd'hui, grâce aux horloges, on a un test très contraint qui est que la variation relative d'alpha dans le temps est plus petite que quelques 10-17 par an. Après, il y a un effet prédit par la relativité générale qui est le décalage gravitationnel, c'est-à-dire des horloges dans des référentiels différents, à des potentiels de gravitation différents, vont avoir des fréquences différentes, même si elles sont identiques. Le test qui l'a mesuré directement en 76, donc il y a 35 ans, avec Gravity Probe, et en envoyant un maser dans une fusée en comparant sa fréquence avec un maser au sol, a donné un test qui permettait de valider cette mesure à 70 ppm. Et avec un futur projet spatial dont je vais parler, qui s'appelle ESSEUSE, on espère gagner plus d'un ordre de grandeur. Et vous allez voir que les instruments, aujourd'hui, commencent à avoir des performances assez impressionnantes. Il y a des nouvelles applications qui commencent à émerger, par exemple la géodésie relativiste. C'est-à-dire, dans un sens, on dit, ben tiens, on va mesurer le déplacement de fréquence de deux horloges dans deux référentiels différents qui sont soumises à des potentiels de gravitation différents. On peut dire l'inverse. C'est-à-dire, on peut dire, on va utiliser les horloges, on va mettre dans des potentiels différents et on va, à partir de la différence de fréquence, mesurer directement la différence de potentiel gravitationnel. Aujourd'hui, il n'y a pas d'instrument qui permet de mesurer le potentiel ou la différence de potentiel gravitationnel. Vous avez des gravimètres qui mesurent le champ de pesanteur. On peut remonter au potentiel à partir des mouvements des satellites, évidemment. Mais si on veut faire des mesures locales, ben aujourd'hui, il n'y a aucun instrument et les horloges peuvent être intéressantes. Évidemment, il faut avoir des horloges de très haute performance, parce que je vous ai donné l'ordre de grandeur, qui est que la différence relative de fréquence delta F sur F va varier de 10-16 si on change l'altitude de l'horloge de 1 mètre. Alors vous allez voir que 10-16, aujourd'hui, on le fait presque quotidiennement. Les nouvelles générations d'horloges optiques atteignent 10-17, donc on a une précision de 10 cm sur, on va dire, la position par rapport au géoïde, pour parler rapidement, et 10-18 devrait être atteint dans les 10 prochaines années. Et évidemment, il y a d'autres applications très importantes des horloges atomiques et de ce domaine-là, en astronomie, entre autres pour la datation des pulsars, qui sont aussi des références de fréquences tout à fait intéressantes. Mais je n'en parlerai pas parce que je vais vraiment concentrer ma présentation sur les horloges atomiques. Alors, je vais commencer par un petit transparent qui a l'air tout simple, mais en fait, derrière lequel on voit toute la logique des développements depuis l'invention des horloges atomiques au milieu du XXe siècle. C'est de se dire que si on veut mesurer une durée, un intervalle de temps, avec un phénomène périodique, eh ben c'est relativement simple. Alors vous avez le phénomène périodique qui est ici. Il suffit de définir, de connaître la valeur d'une période et puis de compter le nombre de périodes. Et donc, connaissant la valeur d'une période et le nombre de périodes, on déduit la valeur de l'intervalle de temps. Donc, c'est tout simple et on voit tout de suite que la qualité de la mesure de cet intervalle de temps, il va dépendre de deux choses. De la qualité de la fréquence de l'oscillateur. Est-ce que la période de l'oscillateur est bien connue? Est-ce qu'elle est stable dans le temps? Est-ce qu'elle est reproductible? Et aussi du nombre de périodes mesurées. Alors ça, on le voit tout de suite sur ce transparent-là. Vous voyez bien que pour le même intervalle de temps, la même durée, si vous utilisez un oscillateur qui a une plus grande fréquence, vous allez avoir une plus grande finesse, c'est-à-dire que la graduation élémentaire temporelle, hein, qui est l'équivalent de la période, va être plus fine. Et donc, vous allez avoir une règle temporelle avec une graduation plus fine, donc une plus grande précision dans la mesure de cet intervalle de temps. Alors, là aussi, ça paraît tout bête, mais ça vous montre finalement le développement depuis le début jusqu'à nos jours, des systèmes périodiques qui permettent de mesurer donc des intervalles de temps avec des oscillateurs ici qui sont représentés avec des ordres de grandeur de leur fréquence, depuis les oscillateurs mécaniques, les oscillateurs à quartz, les oscillateurs dans le domaine micro-ondes et les oscillateurs dans le domaine optique qui sont des lasers. Donc on voit qu'avec des oscillateurs mécaniques, on va découper par exemple une seconde en quelques dizaines ou quelques centaines de morceaux, alors qu'avec un laser où la fréquence peut atteindre 10 puissance 15 Hz, vous voyez que la graduation temporelle élémentaire va être extrêmement fine et donc on s'attend à avoir des améliorations de la performance. Donc c'est exactement ce qui est fait. Alors, le seul problème, c'est qu'un oscillateur, ça mesure très bien un intervalle de temps, mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'autre qualité du système, ça doit être qu'on doit connaître très bien la valeur de la période, de la petite graduation élémentaire, et on doit être sûr qu'elle ne varie pas dans le temps. Si on mesure une seconde, ce n'est pas très gênant, mais si on veut mesurer la durée d'un jour, la durée d'une année, etc., ou des expériences sur des très grandes durées, eh ben, on a besoin d'être sûr que la période élémentaire de votre système ne va pas dériver. Et donc, avec les oscillateurs, ce n'est pas possible, parce que les oscillateurs, leur fréquence dépend de leur géométrie, de leur dimension, et on imagine bien que c'est impossible déjà d'avoir une reproductibilité sur les dimensions au niveau de performance recherchée, et puis qu'on ne peut pas contrôler exactement les dimensions pendant des jours, voire des années, puisque ça dépend de la température, de l'usure, de l'humidité. Donc une horloge atomique, c'est très très simple dans le principe, c'est de se dire on part d'un oscillateur, donc qui peut être un des oscillateurs que j'ai mentionné sur le transparent précédent, dont la fréquence n'est pas forcément stable ou exacte. Et on va venir comparer la fréquence de cet oscillateur sur une référence atomique. Alors là, j'ai mis « atomique » entre guillemets parce que c'est un nom générique puisqu'on parle d'horloge atomique, mais la référence atomique peut être un atome, peut être un ion, peut être une molécule. Il y a plusieurs choix en fonction des types d'applications qu'on va rechercher. Et donc, on a une expérience classique d'interaction matière-rayonnement où si la fréquence de l'oscillateur est égale à la fréquence atomique, on a une belle courbe de résonance, on a un signal maximal. Et puis si la fréquence de l'oscillateur dérive, les atomes jouent le rôle de discriminateur de fréquence. Et donc, on utilise ce signal, qu'on appelle signal d'horloge, pour venir corriger la fréquence de l'oscillateur grâce à un asservissement. Donc, quand le système bouclé fonctionne bien, la fréquence de l'oscillateur se retrouve à être égale à la fréquence atomique et donc devient à la fois stable dans le temps et exacte. Donc on voit qu'il y a deux grandeurs dont j'ai parlé, qu'on appelle stabilité et exactitude. Donc si on était dans un monde idéal, la fréquence délivrée par l'horloge serait parfaitement égale à la fréquence de résonance idéale de l'atome. Alors évidemment, ce qui justifie qu'il y a plein de recherches dessus et tout l'intérêt de nos activités, on n'est pas dans un monde parfait. Et donc il y a deux types d'erreurs. On va dire qu'il y a une erreur statique qui a un biais de fréquence. En soi, il n'est pas gênant, le biais de fréquence, mais le souci, c'est qu'il y a une incertitude sur la connaissance de ce biais de fréquence. C'est ce qu'on appelle l'inexactitude de l'horloge. Et puis, il y a du bruit, forcément. C'est-à-dire que la fréquence n'est pas toujours égale à la fréquence atomique. Et ce bruit qu'on caractérise par Y, ici, un delta F sur F, un écart relatif de fréquence, décrit finalement ce qu'on appelle l'instabilité de l'horloge. Et on le caractérise comme tout système qui fluctue par un écart type, qu'on appelle souvent écart type ou variance d'Allan. Donc, ce que je vais vous montrer un petit peu maintenant, c'est quels sont les grands effets qui limitent les performances, et puis vous donner un petit peu des ordres de grandeur des performances obtenues aujourd'hui. Donc, comme partout, les bruits s'additionnent de façon quadratique. Donc, votre variance d'horloge, ici, ça va être la somme de plein de contributions, de plein de bruits. Donc, évidemment, déjà des bruits instrumentaux. Donc là, je l'ai rayé parce qu'on va supposer que le laboratoire ou les laboratoires travaillent bien. Donc, ils ont pu éliminer ou réduire à peu près tous les bruits instrumentaux. Mais là, une croix, ça va vite. Mais souvent, c'est des années de recherche sur une horloge pour avoir ce terme qui est complètement négligeable. Et puis après, il y a deux bruits vraiment fondamentaux. Un premier bruit qui est la limite quantique, dont je vais parler sur le transparent suivant. Et puis un autre bruit qu'on appelle DIC ici, qui est le bruit dû à l'oscillateur, qui est simplement lié au fait que, tout à l'heure je vous ai dit qu'on compare la fréquence de l'oscillateur à la fréquence atomique, et ça on ne le fait pas en continu, c'est-à-dire c'est fait de façon échantillonnée, c'est-à-dire que régulièrement on vient comparer la fréquence de l'oscillateur à la fréquence atomique, et comme dans tout système échantillonné, vous avez un effet de repliement de spectre qui fait en gros que le bruit de l'oscillateur à haute fréquence va être replié à basse fréquence et donc va dégrader les performances de votre horloge. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste ce transparent est là pour dire que l'atome ne peut pas compenser toutes les fluctuations de fréquence de l'oscillateur. Dans une horloge atomique, on est aussi obligé de développer des oscillateurs de très très haute performance, que ce soit des oscillateurs à quartz, en particulier pour des applications spatiales, des oscillateurs à ondes de galerie dans des cristaux de saphir à des températures cryogéniques, ou alors dans le domaine optique, des lasers stabilisés sur des cavités de très très haute finesse. Ce qui est représenté ici, c'est des cavités Fabry-Perot avec des finesses de plusieurs centaines de milliers. Et on arrive à avoir des largeurs de rayons de laser, donc à des fréquences optiques, qui sont de l'ordre ou inférieurs au Hertz. Donc déjà, les oscillateurs dans les horloges sont de très très haute performance. Donc si on arrive à développer ces oscillateurs, en fait, le bruit dû à l'oscillateur va devenir négligeable et on va se retrouver limité juste par une limite quantique. Et cette limite quantique, en général, elle est donnée par cette formule. Alors, j'aurais pas beaucoup de formules, mais là, c'est juste pour extraire quelques paramètres caractéristiques qui vont vous montrer dans quel sens on mène les recherches. Donc ça, c'est l'écart type, c'est-à-dire que les fluctuations de fréquence de l'horloge, et on veut que ce nombre, cette valeur-là, soit la plus petite possible pour que l'horloge soit la meilleure possible. Donc la première chose, c'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure là, sur la règle temporelle, qu'on avait vue de façon un petit peu qualitative. Il faut augmenter la fréquence de résonance, c'est-à-dire la fréquence de l'oscillateur, pour avoir une meilleure qualité, c'est-à-dire un meilleur facteur de qualité F sur delta F. Et donc ça, c'est vraiment les recherches actuelles, de remplacer les fréquences de référence, qui sont par exemple celles de l'horloge à césium, qui sert pour la définition du SI, qui est à peu près à 10 GHz, d'aller dans le domaine optique, où là, les fréquences sont plutôt à quelques centaines de terahertz, donc bien plus élevées. La deuxième chose, c'est d'avoir une courbe de résonance la plus fine possible. Évidemment, c'est plus facile de pointer le sommet d'une courbe très fine que d'une courbe élargie et bruitée. Et donc l'idée, c'est d'avoir un delta F le plus petit possible. Et là, soit vous vous rappelez de la relation d'incertitude d'Heisenberg, soit vous vous rappelez de la transformation de Fourier, ce qui est à peu près la même chose dans ce cas-là, qui dit que si vous voulez avoir une bonne résolution en fréquence, il vous faut un temps d'observation important. Et donc là, il y a eu des grandes révolutions ces 20 dernières années, en particulier avec l'utilisation d'atomes refroidis par laser, ce qui permettait d'avoir des atomes très lents, donc de les observer très longtemps, et donc d'avoir des raies de résonance très fines. Et en plus, la possibilité de piéger. Alors on peut piéger des ions dans des champs électromagnétiques, donc on les observe longtemps. On peut aussi piéger des atomes froids avec de la lumière laser, et j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Évidemment, on veut avoir une courbe très fine, la courbe de résonance, mais on veut avoir une courbe avec le rapport signal à bruit le plus fantastique possible. Donc là, j'ai mis chasse au bruit, c'est-à-dire que tous les bruits instrumentaux, évidemment, doivent être rendus complètement négligeables. Et en général, quand on travaille bien, on atteint une limite quantique, qui est que le rapport signal à bruit est en gros, comme c'est des systèmes limités par des bruits poissoniens, est en gros limité par la racine carrée du nombre d'atomes qui sont utilisés. Puis évidemment, il y a le nombre de mesures, c'est-à-dire qu'en gros, cette formule-là, elle traduit le fait qu'on a un bruit blanc de fréquence, et donc, comme dans tout système limité par un bruit blanc, on gagne comme la racine carrée du nombre de mesures élémentaires, c'est-à-dire que si on intègre la fréquence de notre horloge dans le temps, on va gagner comme la racine carrée du temps d'intégration. Donc c'est ce qu'on voit sur ce petit diagramme, c'est-à-dire que si vous utilisez votre... Parce que souvent, quand on parle d'horloge, on parle plutôt de référence de temps. Et pour l'instant, je vous ai parlé beaucoup de fréquence et pas beaucoup de temps. Donc ici, ce qui est représenté, c'est l'écart type en coordonnées logarithmiques, en ordonnées, en fonction du temps d'intégration, c'est-à-dire du nombre de mesures en abscisse. Et donc, vous voyez qu'on gagne comme la racine carrée du temps d'intégration, donc c'est une pente taux moins 1,5 en coordonnées logarithmiques. Donc ça veut dire que si vous voulez gagner un facteur 10, vous partez d'un certain point, à une seconde, par exemple, à la stabilité de fréquence de votre horloge à une seconde. Si vous voulez gagner un facteur 10 sur les fluctuations de fréquence de l'horloge, il faut attendre une durée 100 fois plus importante. Et comme le lien entre les fluctuations de fréquence Y et les fluctuations du temps délivré par l'horloge, ben c'est une dérivée ou une intégration, suivant le sens où vous le regardez, et ben la stabilité en temps, qu'on définit aussi avec un écart type, de la même façon que le sigma Y, on l'appelle sigma X, va augmenter avec la racine carrée du temps d'intégration. Et donc le but du jeu, ben c'est d'avoir une courbe qui démarre le plus bas possible, hein, donc d'avoir la courbe déjà avec la meilleure stabilité à court terme, et évidemment, d'être dans le régime où on gagne toujours en intégrant, ça, c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'il y a des sources de bruit qui ne se moyennent pas comme du bruit blanc de fréquence qui vont faire que vous ne gagnez pas comme la racine carrée du temps d'intégration. Et donc, il va y avoir un certain nombre d'effets systématiques. Ces limitations sur le long terme, en fait, sont dues à des effets systématiques, des déplacements de fréquence mal contrôlés qui ne vont pas bien se moyenner et qui vont affecter à la fois la stabilité long terme de l'horloge et l'exactitude, parce que si on ne sait pas bien les contrôler, clairement, on ne sait pas bien les mesurer non plus. Et donc, ces effets systématiques, comme je viens de le dire, ils vont à la fois influencer la stabilité long terme et l'exactitude de l'horloge. Là, je n'ai pas le temps de vous détailler tous ces effets systématiques, parce que c'est vraiment le cœur de métier des laboratoires qui travaillent sur des horloges atomiques, mais il y en a beaucoup. Vous pouvez imaginer qu'on va parler de nombres avec 16, 17, voire 18 chiffres. Donc, le nombre d'effets qu'on doit connaître avec ce niveau de précision est assez impressionnant. Et donc, il y a différents types de déplacements de fréquence qu'on doit prendre en compte. Donc, déjà, il y a des déplacements de fréquence qui sont intrinsèques à l'horloge. Alors, les effets Doppler, là, c'est l'effet stressant pour un métrologue d'être confronté à l'effet Doppler. Déjà, l'effet du premier ordre. Donc, pour chaque effet, il y a évidemment une ruse ou une technique astucieuse pour s'en affranchir. L'effet Doppler du premier ordre, par exemple, soit on fait des interactions dans des cavités, une onde stationnaire, il n'y a pas d'effet Doppler du premier ordre. Soit on se place dans un régime qui s'appelle le régime lambda-queue, c'est-à-dire on piège les atomes ou les ions et on les force à se déplacer. Donc on ne change pas leur vitesse, ils ont toujours une très grande vitesse, mais on les force à se déplacer dans une région de l'espace qui est très petite devant la longueur d'onde. Et pour avoir de l'effet Doppler, il faut en gros que l'atome explore une région de phase de l'ordre de 2π, donc il faut qu'il voit une longueur d'onde, il se déplace sur une distance de l'ordre de la longueur d'onde. Et donc si on les piège très fortement, soit avec des pièges électromagnétiques, soit avec des gaz tampons, hein, ce qui est fait dans les horloges actuelles de GPS et de Galiléo, ben on arrive à s'affranchir de cet effet Doppler du premier ordre. Mais évidemment, si on rajoute une interaction avec les atomes, on gagne sur l'effet Doppler, mais on rajoute une interaction, donc un autre déplacement de fréquence. Donc on déplace un petit peu le problème. Donc une fois qu'on a corrigé l'effet Doppler du premier ordre, il y a le deuxième ordre, etc. Il y a différents types d'effets Doppler. Donc comme je viens de le dire, il y a toujours des champs électromagnétiques externes, soit des champs magnétiques environnementaux, le champ de la Terre, par exemple. Mais si on veut s'affranchir de l'effet Doppler en piégeant les atomes, ces champs de piégeage vont induire des déplacements de fréquence qu'on doit pouvoir compenser et très bien contrôler. Une autre limitation, c'est le rayonnement du corps noir. L'horloge est à température ambiante en général. Et par exemple, pour le césium, le déplacement de fréquence lié... Donc l'horloge rayonne, un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique interagit avec les atomes, déplace les niveaux atomiques. Donc c'est une source d'instabilité si on ne contrôle pas bien la température de l'horloge et d'inexactitude si on ne le prend pas en compte. Et l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10-14, le delta F sur F à température ambiante. Donc vous voyez qu'avec des horloges à 10-16, c'est un très gros effet. Toutes les problématiques de collision, hein, c'est-à-dire dès que l'atome n'est pas tout seul, dès qu'il y a des collisions avec d'autres atomes, soit de gaz résiduel, soit d'autres atomes de la même espèce, ça fait des déplacements de fréquence. Et puis tous les effets, alors qui ne sont peut-être pas scientifiquement les plus excitants à étudier, mais qui souvent sont très présents, les problématiques d'électronique et de câbles. Quand vous définissez une échelle de temps, il y a un point de référence. Si vous rajoutez un câble, le temps avant le câble n'est pas le même que le temps à l'autre extrémité du câble. Donc évidemment, tout ça, ça dépend de la température, de l'humidité et de pas mal de paramètres. Donc ça, c'est les effets intrinsèques à l'horloge. Et puis, dans toutes les applications, on compare des horloges qui sont en général dans des référentiels différents. Donc il faut rajouter tous les effets relativistes. Il y en a aussi qui sont intrinsèques à l'horloge, hein, je ne les ai pas mentionnés, parce que pour l'instant, ce n'est pas ceux qui sont les plus importants. Mais dès que vous placez deux horloges dans des référentiels différents, ben évidemment, vous avez les effets relativistes dont il faut prendre en compte. Donc aujourd'hui, les meilleurs horloges micro-ondes, là vous avez la petite animation à droite, sont des fontaines à atomes froids, où vous refroidissez par laser des atomes, vous lancez les atomes avec la lumière laser vers le haut, ça traverse la petite cavité et fait une interaction de Ramsey en interagissant en montant et en descendant. Et on vient détecter par laser, là, quand ça redescend, on vient détecter la probabilité de transition qui nous donne l'information sur la différence de fréquence entre la fréquence de l'oscillateur et la fréquence atomique. Donc ça, le cycle, c'est à peu près un cycle toutes les secondes. Donc vous voyez qu'on a vraiment une mesure échantillonnée, hein, c'est-à-dire toutes les secondes, on vient comparer la fréquence de l'oscillateur avec la fréquence atomique. Voilà à quoi ça ressemble. Alors souvent, l'horloge atomique, c'est des boîtes de conserve parce qu'il y a tous les blindages en mu-métal pour protéger des champs magnétiques extérieurs. Et les ordres de grandeur en termes de performance, c'est des exactitudes dans la gamme de 10-16, quelques 10-16, et une stabilité au niveau de 10-16 au bout d'un jour d'intégration. Donc, le bilan d'exactitude pour atteindre les quelques 10-16, c'est juste pour vous montrer qu'il ne faut pas confondre la valeur du déplacement de fréquence, c'est la précision avec laquelle on peut corriger du déplacement de fréquence. Le bon exemple, c'est l'effet Zeeman du second ordre, c'est-à-dire la sensibilité de la transition atomique au champ magnétique. Vous voyez que c'est une très très grosse sensibilité, hein, l'effet absolu est important. Par contre, on sait très bien le corriger, vous voyez, à 10-17, simplement parce qu'on utilise les atomes eux-mêmes pour mesurer le champ magnétique. C'est-à-dire qu'on fait des fois fonctionner l'horloge sur une transition qui est très dépendante du champ magnétique, donc on transforme l'horloge en magnétomètre. Les horloges mesurent le champ magnétique et ça permet de faire la correction en temps réel. Donc pour chaque ligne, vous voyez qu'il y a pas mal d'effets où la valeur moyenne, c'est zéro, mais évidemment, il y a une incertitude qui est importante. Et à la fin, on fait la somme quadratique, ça donne la performance de l'horloge. Et donc, l'incertitude, c'est soit une incertitude sur la mesure du paramètre, par exemple sur les collisions, c'est pas forcément simple de mesurer très précisément une densité atomique, ou alors c'est une incertitude sur le modèle qui, à partir de la valeur du paramètre, va vous donner le déplacement de fréquence. Donc vous imaginez qu'avec l'amélioration des horloges atomiques, ben, il y a aussi une amélioration des techniques de mesure, mais aussi des modèles qui vont avec. Donc, ça, c'est les fontaines atomes froids. Il y a à peu près une vingtaine de fontaines atomes froids qui fonctionnent dans les laboratoires autour du monde. Bon, elles ne sont pas toutes à 10-16, mais disons, elles sont entre 10-15 et 10-16. Donc, l'avenir de ces horloges micro-ondes, ben, il y a plusieurs aspects. Déjà, si on veut aller au-delà en termes de durée d'interaction, ben, il ne faut plus être gêné par la gravité. Vous avez vu que pour la fontaine, on est limité par la gravité. Alors, si on voulait gagner un facteur 10, comme H égale 1,5 GT2, si on veut gagner un facteur 10 sur le temps, ça fait un facteur 100 sur la hauteur de l'horloge, donc c'est plus réaliste. Et donc, il vaut mieux aller dans l'espace en microgravité. Donc ça, c'est un projet très ambitieux, français pour l'horloge et européen pour le système, avec une horloge atome froid qui s'appelle Pharao, qui est développée en France, financée par le CNES, avec une collaboration avec pas mal de laboratoires, où là, vous avez les zones d'interaction, le banc optique pour le refroidissement des atomes, la détection, et qui sera installée sur la Station spatiale internationale ISS en 2015, et évidemment qui, on espère, ouvrira la voie des filières d'instruments atomes froids dans l'espace, entre autres avec d'autres projets, par exemple STEQuest, qui volera bien après. Sachant qu'ESS Pharao est un projet justement pour... faire voler le premier instrument atome froid métrologique dans l'espace et aussi faire des tests en termes de métrologie et de physique fondamentale. Après, il y a tous les aspects miniaturisation. L'espace, c'est bien, mais ce n'est pas forcément un référentiel facile à accéder en termes d'instrumentation. Donc, si on veut augmenter les durées d'interaction au sol, ben, on peut piéger les atomes. Et donc, ça, c'est une nouvelle voie qui est explorée depuis quelques années, d'utiliser des pièges, hein, des puces atomiques. Alors, ici à droite, vous avez une petite puce et on vient piéger les atomes froids dans des champs électromagnétiques. Donc, c'est des systèmes millimétriques, hein, c'est très compact. Et ça permet, en plus, alors là, j'aurais pas du tout le temps de rentrer dans les détails, d'utiliser ce qu'on appelle des condensats de Bose-Einstein. J'en parlerai un tout petit peu en conclusion, dans le sens où, en fait, dans nos horloges atomiques, on fait de l'interférométrie atomique, c'est-à-dire qu'on fait des interférences sur des ondes atomiques, comme on sait très bien faire des interférences sur des ondes optiques. Donc, dans nos instruments, les atomes, on utilise le caractère ondulatoire des atomes pour faire nos mesures. C'est vraiment des mesures interférométriques. Et en fait, le condensat de Bose-Einstein est l'équivalent du laser dans le domaine des ondes atomiques, du laser dans le domaine optique. Donc, on imagine que d'utiliser des ondes atomiques cohérentes pour faire des mesures de précision peut être intéressant. Donc ça, avec les puces atomiques, on sait très bien le faire. Bon, Faro est une grosse horloge, hein, c'est à peu près, c'est pas un mètre cube, mais disons que c'est de l'ordre du mètre, hein, la longueur du tube, c'est un mètre. Ben, il y a tout un pan d'activité pour miniaturiser les horloges atomes froids, en particulier utiliser des horloges atomes froids pour les futures versions de Galileo. Et il y a aussi des systèmes, alors c'est pas avec des atomes froids, pour faire des horloges centimétriques qui pourraient équiper tous les récepteurs GPS pour avoir une référence locale de temps et de fréquence absolue. Alors ça, c'est les domaines des horloges micro-ondes. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec les horloges optiques, on va plus loin puisque la fréquence de référence est bien plus importante. Donc là, il y a deux grandes familles d'horloges optiques un petit peu en concurrence. La première, historiquement, je vais commencer par la droite, c'est les horloges à ions, puisque c'est assez facile de piéger un ou des ions avec des champs électromagnétiques. Le seul problème, c'est que dès qu'on met plusieurs ions, les ions interagissent à cause de la répulsion coulombienne, et donc ça fait des déplacements de fréquence. Et donc les horloges à ions les plus performantes aujourd'hui sont des horloges à ions uniques, ou quelques ions. Donc ça veut dire que c'est extrêmement performant d'un point de vue interaction. Par contre, évidemment, rappelez-vous, le rapport signal à bruit varie comme racine de n, donc là, n n'est pas très grand. Donc ça, c'est un problème pour le rapport signal à bruit. Par contre, on contrôle très très bien les champs environnants. Et la famille d'horloges optiques qui est un peu concurrente, qu'on appelle les horloges à réseau optique d'atomes neutres, donc là c'est avec des atomes, et les atomes sont piégés en utilisant de la lumière laser dans des ondes stationnaires laser qui jouent le rôle un petit peu de piège lumineux. Là, on voit une représentation un peu comme une boîte à œufs, donc c'est une boîte à œufs lumineuse dans laquelle on vient piéger dans des puits de potentiel les atomes. Donc là l'avantage c'est qu'on a beaucoup d'atomes, par contre on rajoute des interactions qu'il faut contrôler et maîtriser. Voilà. Donc là, les recherches dans les deux axes, justement, cherchent à travailler sur les points où il y a des petits bonshommes, des petits smileys qui ne sourient pas beaucoup. Alors, les horloges optiques, en fait, ça existe depuis longtemps, hein, depuis en particulier l'invention du laser. Le seul problème, c'est quand vous voulez mesurer une fréquence optique directement, ce n'est pas simple. Mesurer une fréquence dans le domaine micro-ondes, il y a beaucoup d'instrumentation dans le domaine optique. Être capable de compter 10 puissance 15, 10 puissance 14, 10 puissance 15 périodes par seconde, ce n'est pas simple. Et pendant longtemps, ça s'est quasiment pas fait ou fait de façon extrêmement complexe, avec des expériences très très lourdes. Et en fait, depuis une grosse dizaine d'années, il y a eu une vraie révolution avec l'utilisation de laser femtosecondes pour réaliser des peignes de fréquences cohérents et de pouvoir mesurer en une seule étape, grâce à ce peigne de femtosecondes, de mesurer une fréquence optique ou de leur accorder une fréquence micro-ondes, ce qui a valu un prix Nobel à Ted Hensch il y a quelques années. Donc ça, j'en parlerai pas, mais vous voyez qu'à chaque fois, les atomes, les ions améliorent la performance, mais il faut aussi développer toute une instrumentation spécifique pour pouvoir utiliser les horloges. Donc si on résume ça sur ce petit diagramme qui vous donne l'évolution des performances en termes d'incertitude relative de fréquence, hein, le delta F sur F en fonction de la date, depuis le milieu du XXe siècle, vous voyez que sur les horloges micro-ondes, qui sont les points noirs, on a gagné à peu près un facteur 10 tous les 10 ans. Ce qui est relativement remarquable d'avoir cette loi de Moore sur une aussi grande durée. Et les horloges optiques, qui ont démarré relativement plus tard et avec des niveaux moins performants, vous voyez qu'elles, très très vite, dépassent maintenant les horloges micro-ondes. Donc en gros, pour donner des ordres de grandeur un peu généraux, les meilleures horloges micro-ondes sont au niveau de 10-16, et aujourd'hui, les meilleures horloges optiques sont en dessous de 10-17. Donc les horloges optiques, comme je l'ai dit, il y a deux filières, hein, la filière ion et la filière réseau optique à atomes neutres. Donc vous voyez qu'il y a, un peu comme les horloges micro-ondes, il y a plein d'ions ou d'atomes qui sont développés. Donc aujourd'hui, c'est l'horloge aluminium du NIST aux États-Unis qui a le record. Les horloges à ions ont démarré bien avant les horloges atomes neutres, et les horloges atomes neutres aujourd'hui ne sont, entre guillemets, qu'à un facteur 10 des horloges à ions. Donc la compétition intéressante de voir à terme qui va l'emporter. Alors évidemment, je ne sais pas s'il y aura la question à la fin, mais je peux déjà la poser là. Quand on voit tous ces ions et qu'on pose définition de la seconde qui repose sur le césium aujourd'hui, on se dit on a l'embarras du choix. Le futur des horloges optiques, ben c'est comme les horloges micro-ondes, c'est d'aller dans l'espace. Alors pour des raisons un petit peu différentes. Là, ce n'est pas pour augmenter la durée d'interaction, puisque les atomes ou les ions sont piégés, donc on ne gagne rien à travailler en microgravité. Par contre, dans l'espace, on contrôle bien mieux l'environnement, on contrôle bien mieux les vibrations, par rapport au sol si on a un satellite dédié. Et surtout, on connaît bien mieux le potentiel de gravitation. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est si on a une horloge et qu'on veut avoir une stabilité au niveau de 10-18 ou une exactitude au niveau de 10-18, ça veut dire qu'on connaît la position de l'horloge par rapport au géoïde au centimètre près, ce qui n'est pas gagné. Et on est sûr que les fluctuations du potentiel de pesanteur sont plus petites que l'équivalent d'un centimètre. Donc jusqu'à 10 cm, on imagine qu'on va y arriver, c'est-à-dire jusqu'à 10-17. En dessous de 10-17, c'est pas gagné. En tout cas, c'est identifié aujourd'hui comme une grosse limitation pour ce type d'horloge. Et puis si on veut aller plus loin encore dans l'utilisation de nouvelles fréquences, on peut utiliser des transitions qui sont presque dans le domaine optique, hein. C'est ultraviolet, mais enfin c'est comme optique, qui utilisent des transitions nucléaires, dans du thorium par exemple, qui ont un intérêt, alors pas tellement parce qu'on gagne en fréquence, parce que la fréquence n'est pas tellement plus grande que les fréquences optiques actuelles. Par contre, l'intérêt des fréquences nucléaires, c'est qu'il y a une très très grande immunité aux champs magnétiques, électromagnétiques externes. Et pour les tests de physique fondamentale, on a besoin de comparer des types de transitions très différents dans des domaines de fréquences très différents qui dépendent de constantes fondamentales très différentes. Ces transitions sont très très intéressantes. Et à être comparé aux transitions dans le domaine micro-ondes et transitions dans le domaine optique. Donc là, il y a vraiment un enjeu. Donc il y a très peu de laboratoires, parce que pour l'instant, la spectroscopie du thorium n'est pas très précise, donc on ne sait pas où est la transition. Donc certains labos, dont le CIRT, attendent que d'autres laboratoires fassent la spectroscopie précise, ce qui peut mettre longtemps. Chercher une raie très fine dans un domaine spectral large, ça peut prendre du temps. Alors, là, j'espère que je vous ai convaincu qu'on a des horloges fantastiques qu'il faut comparer maintenant. Alors, pour les comparer, suivant les expériences, les applications, on va vouloir comparer soit leur temps, soit leur fréquence. Donc, il y a deux types de transferts. Donc, déjà, le transfert de fréquence, qu'on appelle syntonisation, où là, on veut vraiment simplement comparer la fréquence de deux horloges distantes. Et ça, c'est utilisé pour comparer, basiquement, justement, ces fréquences-là, pour être sûr que quand on annonce un bilan d'exactitude, c'est cohérent avec ce qu'annonce le laboratoire dans le pays voisin, pour être sûr qu'on n'a pas oublié un effet. Évidemment, les tests de physique fondamentale, puisque c'est la fréquence des horloges qui est la donnée brute qu'on mesure. Tous les étalonnages en fréquence des échelles de temps atomique, puisque les échelles de temps atomique sont construites, en particulier les échelles de temps atomique nationales ou internationales, sont construites à partir d'horloges commerciales, qui ne sont pas aussi performantes, mais qui ont le mérite de fonctionner en continu. Alors que les instruments que je vous ai présentés juste avant, vous avez vu comment c'est compliqué, donc on ne peut pas s'engager aujourd'hui à ce qu'ils fonctionnent en continu. Ça, c'est nécessaire pour être une référence de temps. Mais par contre, ces étalons de fréquence, ces étalons primaires de fréquence, viennent étalonner les fréquences des échelles de temps atomique. Et puis évidemment, si on imagine faire de la géodésie relativiste, on viendra comparer les fréquences de deux horloges dans deux potentiels de gravitation différents. Donc là, ce qui est important quand on veut faire un transfert de fréquence, c'est que le lien entre les deux horloges, soit stable en temps. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément le retard lié à la propagation, mais on s'en fiche, on veut que ce retard soit parfaitement stable dans le temps. Pour d'autres applications, au contraire, on a besoin de faire ce qu'on appelle du transfert de temps, donc vraiment des synchronisations. Et dans ce cas-là, la stabilité n'est plus suffisante. On a besoin d'avoir d'autres qualités du transfert. Ça, évidemment, c'est utilisé pour les constructions d'échelles de temps et les comparaisons d'échelles de temps atomiques, puisque là, on compare des temps absolus. Si on veut faire de la télémétrie une voie, c'est-à-dire mesurer une distance, faire du ranging, connaissant la date de départ du signal, la date d'arrivée à l'autre bout, il faut absolument connaître la valeur du délai. Et donc ces problématiques de synchronisation requièrent à la fois de la stabilité et une calibration très fine des délais, ce que j'appelle alors entre guillemets l'exactitude en temps. Donc c'est comme pour les horloges, alors ce n'est pas les mêmes effets, mais vous imaginez que quand on transfère un signal d'un point A à un point B, il y a énormément d'effets qui viennent perturber la propagation. On n'est malheureusement pas dans le vide, ou heureusement pas dans le vide, suivant les cas. Donc là j'ai pris l'exemple d'une comparaison entre une horloge au sol et une horloge dans l'espace. Ça marcherait aussi entre deux horloges sol si on passe par une fibre optique, par exemple, parce que c'est pas le vide. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de retards, des retards liés à la propagation, donc le fait qu'on ne soit pas dans le vide. Là, on traverse la troposphère, donc, dont le retard dépend de pas mal de paramètres, mais la température, l'humidité, l'ionosphère qui varie en plus, qui dépend plus de la fréquence du signal que vous propagez. Plein d'effets instrumentaux qui sont soit liés à l'instrumentation pour recevoir et émettre les signaux, soit liés aux antennes, les effets d'antenne, les incidences sur les antennes, les effets géométriques, etc. Puis les effets relativistes. Alors dans certaines situations, par exemple comme le positionnement par GPS, les effets relativistes, il faut les corriger parce que, entre guillemets, ils ne sont pas intéressants, ce n'est pas ça qu'on veut mesurer, on veut se positionner. Pour d'autres applications, comme par exemple le projet Pharao et Seuss, vont faire des tests de physique fondamentale. Ce sont les effets relativistes qui seront intéressants et qu'on voudra mesurer. Et donc là aussi, on a pas mal les effets Doppler, premier, deuxième ordre, l'effet Sagnac et le fameux décalage gravitationnel qu'on veut mesurer très précisément. Et donc vous voyez que tous les systèmes qui sont développés et qui vont être développés cherchent à minimiser au mieux tous ces défauts, tous ces effets qui affectent la performance finale du transfert de temps. Donc il y a différents types de mesures et de techniques. La première technique, la plus historique, parce que ça semble être la plus simple conceptuellement, c'est d'envoyer des impulsions, des signaux pulsés. Des simples impulsions, en général, c'est fait dans le domaine optique, maintenant, où on date les instants d'émission et de réception des impulsions. Alors ça, c'est un certain nombre d'intérêts. C'est comme la télémétrie, par exemple, des radars de la police pour mesurer les vitesses ou les positions des voitures. Ça a un certain nombre d'inconvénients en termes de performance et de continuité de fonctionnement, mais on verra quand même que dans le domaine optique, c'est assez performant. Donc, en particulier pour le positionnement et les comparaisons entre le sol et l'espace, on utilise souvent des signaux continus. Donc, le signal continu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un signal périodique qui est en général une réplique, alors pas forcément à la même fréquence, mais qui est une réplique du signal qui sort de l'horloge. Et donc, on peut mesurer simplement le déphasage ou la différence de fréquence entre le signal sinusoïdal qui est local, qui est relié à notre horloge locale, et le signal sinusoïdal qui était relié à l'horloge à l'autre bout du système et qui a été transmis jusqu'au point de mesure. Donc on fait une simple mesure de différence de fréquence ou de différence de phase, hein, suivant les techniques, et ça donne une information. Ça donne une information, sachant qu'il y a des problématiques, par exemple, qu'il y a une ambiguïté de 2π, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter les périodes de façon continue, surtout s'il y a des trous de fonctionnement, donc ce n'est pas forcément satisfaisant, en particulier si on veut faire du transfert de temps. Et donc souvent, pour les techniques qui veulent faire du transfert de temps ou du positionnement, comme GPS, on est obligé de rajouter un code, qui est en général pseudo-aléatoire, mais un code, c'est-à-dire une modulation superposée à ce signal périodique, sur lequel on va mesurer, encore une fois, la différence de temps ou le déphasage entre le code qui est généré localement et le code qui est reçu. Donc voilà un petit peu les types de techniques. Et en gros, les grands axes pour améliorer les performances des transferts de temps ou de fréquence, déjà pour la stabilité, si on veut avoir une mesure plus précise de la différence de phase, il faut monter en fréquence. Donc c'est vrai à la fois pour la mesure sur la fréquence de la porteuse ou la mesure du code, simplement parce que vous avez une meilleure résolution. Rappelez-vous, une phase, c'est 2π fois la fréquence fois le temps. Donc si vous avez un petit écart temporel, qu'est-ce qu'il est ? Plus la fréquence est grande, plus le déphasage associé sera important. Et puis après, il y a toutes les techniques pour compenser, corriger, éliminer les fluctuations des retards, soit lié simplement à la distance géométrique, soit lié au fait qu'on ne se propage pas dans le vide. Donc il y a un indice qui n'est pas forcément bien connu. Donc pour la géométrie, il faut très bien connaître les positions à chaque extrémité. Donc si vous avez une horloge dans l'espace, il faut très bien connaître l'orbitographie. Si vous ne la connaissez pas très bien, cette position, vous pouvez utiliser une technique qu'on appelle deux voies, two way en anglais, qui est un aller-retour. En fait, on envoie un signal dans un sens et il y a un signal qui est émis dans l'autre sens en même temps. Et ça permet de compenser les effets de propagation. Typiquement, on va le voir, le GPS n'est pas tout, c'est une technique simple voie. Évidemment, si on a une technique simple voie, il faut avoir un modèle atmosphérique plus précis. Par exemple, pour caractériser le délai ionosphérique que j'ai mentionné ici, qui varie comme la fréquence au carré et dont la valeur dépend du contenu électronique total, on peut utiliser plusieurs fréquences, en déduire le contenu électronique total et compenser du retard ionosphérique. Donc il y a plusieurs techniques suivant les applications et les systèmes utilisés. Et en ce qui concerne l'exactitude en temps, il faut mieux calibrer les retards, à la fois les retards de propagation dans l'atmosphère, mais aussi les retards instrumentaux. Et ça, ce n'est pas forcément simple. Vous allez voir les ordres de grandeur. Aujourd'hui, on est en train de parler d'exactitude au niveau de la nanoseconde. Déjà, pour pouvoir être sûr que tous les retards dans les antennes, dans les câbles, dans tous les systèmes électroniques, donc vraiment juste l'instrumentation locale, est connue à la nanoseconde près, c'est des années de travail. Donc c'est quand même des choses relativement complexes. Et en plus, il faut des stations transportables pour être sûr que l'étalonnage qu'on a fait à un endroit est compatible avec l'étalonnage qui a été fait ailleurs pour vérifier qu'il n'y a pas simplement un retard qu'on a oublié. J'en parlerai pas du tout, mais ce genre d'étalonnage en temps, on en a beaucoup parlé avec les neutrinos qui vont un petit peu trop vite, a priori, puisque simplement la vitesse des neutrinos a été déduite de mesures de temps de départ et de temps d'arrivée. Et ces temps de départ et temps d'arrivée ont été mesurés avec des horloges. Ces horloges étaient raccordées via le système GPS. Et donc, vous voyez que là, c'était vraiment de l'exactitude en temps dont on avait besoin. Donc, j'en parle pas du tout, mais juste pour vous dire, sur des applications très spécifiques, on peut avoir des besoins et puis des choses un peu particulières. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les techniques. Le tableau est un petit peu compliqué, mais je vais extraire vraiment l'information qui est importante. Donc les deux techniques aujourd'hui qui fonctionnent de façon vraiment opérationnelle, qui permettent de faire des comparaisons d'horloges seules en continu tous les jours. Donc c'est les techniques utilisant en particulier GPS. Alors j'ai mis GNSS parce qu'il y a évidemment l'ouverture avec GLONASS, mais aussi avec Galileo, bien entendu. Donc là, c'est quelques mots-clés pour dire un petit peu quel type de technique. Donc c'est une voix, c'est juste un signal qui vient de l'espace vers le sol. On peut utiliser plusieurs fréquences pour compenser l'ionosphère. Et en rouge, à chaque fois, c'est la fréquence de la porteuse. Alors c'est des ordres de grandeur, c'est juste pour vous montrer les facteurs 10. Et en vert, c'est la fréquence du code. Je n'ai pas mis en hertz, mais ça revient à la même chose que des mégahertz. Et donc là, la performance aujourd'hui en termes de transfert de temps, quand on veut comparer des horloges au sol, c'est-à-dire qu'on a un bruit de l'ordre de 100 picosecondes, c'est-à-dire que ça permet de comparer, là aussi c'est des ordres de grandeur, ce n'est pas obtenu tous les jours de façon opérationnelle, ça permet de comparer des horloges, on va dire, au niveau de 10-15 si on intègre pendant un jour, et l'exactitude, c'est-à-dire la qualité de la synchronisation, c'est de l'ordre de quelques nanosecondes. Évidemment, la question, c'est qu'est-ce que va apporter Galileo, puisqu'il y aura plus de satellites, donc les récepteurs au sol verront plus de satellites, donc potentiellement, il y aura un gain. Je pense sur le bruit, sur l'exactitude, ce n'est pas forcément gagné. Il y a une technique avec un acronyme un petit peu horrible, qui veut dire Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer, qui est en gros une technique deux voies qui utilise un satellite de télécommunication. C'est-à-dire que vous avez deux horloges au sol qui vont tirer en même temps vers un satellite géostationnaire de télécommunication, à bord duquel il y a un transpondeur, il n'y a pas d'horloge, il y a juste un transpondeur. Et ce transpondeur sert à envoyer dans... Donc vous avez l'horloge A qui tire vers le satellite, et le transpondeur transfère le signal de l'horloge A vers l'horloge B. Et puis en même temps, l'horloge B tire vers l'horloge A. Donc c'est vraiment une sorte de simple répéteur, sauf que comme il est géostationnaire, ça permet de comparer des horloges très distantes en vue commune, de faire des comparaisons intercontinentales. Ce qu'on fait aussi avec GPS. Et donc là, l'avantage, c'est que ces deux voies, ça monte et ça descend, donc on compense un certain nombre d'effets de propagation. Et vous voyez que le gain potentiel par rapport à GPS, c'est qu'on a une porteuse à une fréquence 10 fois plus élevée et un code à une fréquence aussi 10 fois plus élevée. Donc le bruit, pour l'instant, est de l'ordre du même ordre de grandeur que pour GPS. Il y a un facteur 2 ou 3 de mieux, mais pas vraiment plus. Les comparaisons de fréquences aussi se font au niveau de 10.15, mais c'est une méthode qui a été développée plus récemment que celle avec GPS. Par contre, l'exactitude est un petit peu meilleure. Alors on se dit, voilà, on a des systèmes qui marchent bien, qui utilisent des satellites existants, pourquoi on s'embête ? Alors on s'embête pourquoi ? Parce que si on reprend le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, avec les performances des horloges, la ligne bleue pointillée, c'est le niveau de performance aujourd'hui des techniques de transfert de temps par satellite. Et là, vous voyez qu'on a un problème. Donc ça veut dire qu'on atteint à peine le niveau des fontaines atomes froids. On est un petit peu en dessous de 10.15. On se dit, en travaillant un peu, on va gagner un petit facteur 2, donc on va y arriver. Par contre, elles ne sont clairement pas adaptées à la comparaison d'horloges optiques distantes, qui sont déjà 1 à 2 ordres de grandeur plus performants. Donc, bien entendu, il faut imaginer des nouveaux types de transferts de temps et de fréquences. C'est ce qui est présenté ici en bleu. Donc déjà, toujours dans le domaine micro-ondes, utiliser la technique Two-Way dont j'ai parlé juste auparavant, où aujourd'hui il y a essentiellement une mesure sur le code qui est rajouté à la porteuse, mais de faire des mesures sur la porteuse, et là on gagne un facteur 10 par rapport au GPS. Et donc aujourd'hui, les mesures très préliminaires montrent des bruits en temps qui sont de l'ordre de la picoseconde, donc ce qui est vraiment très remarquable, ce qui permettrait de faire des comparaisons de fréquences au niveau de quelques 10.17 si on intègre pendant un jour. Sachant que l'exactitude sera certainement limitée toujours par la mesure sur le code, et donc là, on ne gagnera pas énormément. Et je vous ai parlé déjà plusieurs fois du projet ESS Pharao. On va mettre une horloge de très très haute performance dans l'espace, à bord de la Station Spatiale Internationale, et donc tout naturellement, il faut développer un lien micro-ondes qui permet de lire la fréquence et le temps de cette horloge sans dégradation. Donc ce lien qui s'appelle MWL, Microwave Link, qui est développé en Allemagne, et en gros, prend tous les avantages, toutes les ruses des techniques de transfert de temps précédentes, c'est-à-dire qu'il est aller-retour, il est deux voies, il a plusieurs fréquences pour pouvoir corriger l'ionosphère, il est à haute fréquence, il est en bande KU, donc ça permet d'avoir un effet ionosphérique plus petit, et puis un code qui est à très haute fréquence, puisque c'est 100 mégachips par seconde, ce qui permet d'avoir des bruits en temps qui seront bien plus petits qu'une picoseconde, ce qui n'est pas mesuré en grandeur réelle, sur le système réel, puisque ce n'est pas encore en vol, mais qui est mesuré sur l'électronique au sol, et donc d'avoir des performances en termes de comparaison de fréquences et d'exactitude en temps tout à fait alléchantes. Le seul problème, c'est que vous voyez que ce n'est pas encore suffisant pour les horloges optiques. On a gagné un facteur 10, mais très très vite, on va être gêné par ces liens pour les horloges optiques. Donc il faut aller plus loin, il faut utiliser des méthodes optiques. Alors, il y a plusieurs liens optiques qui fonctionnent déjà ou qui sont en cours de développement. Le premier qui fonctionne déjà, c'est un lien optique pulsé. Donc, on reprend la première technique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est simplement la datation. Il y a un petit télescope ici avec un laser. On date l'impulsion d'émission du laser au sol, dans l'échelle de temps sol. Elle arrive au niveau du satellite, on la date dans l'échelle de temps bord. Il y a un coin de cube qui permet de réfléchir une partie et on la date à nouveau quand ça revient au sol après l'aller-retour. Donc vous voyez, c'est un système de voie aller-retour. On date des impulsions laser. Et aujourd'hui, les performances en termes de stabilité en temps sont d'ordre de la picoseconde. Donc c'est très très performant, avec une exactitude en temps qui est voisine de 100 picosecondes. Et donc c'est une expérience qui est installée sur Jason 2, qui est une expérience un peu de démonstration de faisabilité, hein, puisque T2L2 est un instrument passager. Mais on a pu faire des manips assez intéressantes de comparaison d'une fontaine installée à l'Observatoire de Paris, une fontaine qu'on avait déplacée à l'Observatoire de la Côte d'Azur sur le plateau de Calerne. Ils ont amené la station laser mobile sur le toit de l'Observatoire et on a pu faire des comparaisons quand il n'y avait pas de nuages ni à Grasse ni à Paris, ce qui n'était pas forcément gagné. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'idée, c'est de réutiliser les concepts qu'on utilise déjà pour les transferts de temps micro-ondes, c'est-à-dire une mesure sur la phase de la porteuse. C'est-à-dire qu'on a un système continu, un signal qui est mis de façon continue. On mesure la phase de la porteuse. On rajoute un code pseudo-aléatoire si on veut lever l'ambiguïté de phase. Et donc, il y a deux grandes familles de liens optiques cohérents qui sont développés dans cette direction-là. Déjà en propagation libre, pour faire des comparaisons entre satellites ou entre le sol et le satellite. Donc c'est un lien laser continu, complètement cohérent. Vous voyez, là, la porteuse, elle est à 300 Terahertz. Donc on a vraiment une fréquence très importante, une période toute petite. Et les premiers résultats, finalement, montrent une stabilité en temps vraiment remarquable, hein, en dessous de 100 femtosecondes, donc c'est extrêmement impressionnant, avec des capacités de comparaison de fréquence d'horloge au niveau de 10-18 au bout d'un jour. Alors j'ai mis exactitude en temps avec un point d'interrogation, parce que pour l'instant, c'est juste du transfert de fréquence qui est fait. Il n'y a pas de code encore, hein, c'est juste vraiment la porteuse pure qui est envoyée, il n'y a pas de code qui est rajouté. Mais on espère aller en dessous de 100 picosecondes en termes d'exactitude en temps. Alors le problème de ces techniques en propagation libre, ben déjà il vous faut des stations laser spécifiques, il vous faut un télescope, un laser, un dateur, donc il y a des problèmes de sécurité, c'est-à-dire quand on tire à Paris par exemple, il y avait tous les problèmes de l'avion qui passait au-dessus de l'observatoire qui obligeait à arrêter les comparaisons, et puis ça ne fonctionne pas quand il y a des nuages. Alors ça paraît tout bête, mais quand on veut faire des expériences et des vues communes et qu'il faut être sûr que les horloges optiques, elles ne fonctionnent pas en continu, c'est des instruments extrêmement compliqués qui fonctionnent aujourd'hui, les meilleurs pendant plusieurs jours, un jour, et puis un laser qui se déloque et donc il faut reprendre à zéro. Donc c'est-à-dire si on veut faire des manips sur le long terme, il faut être sûr que pendant que l'horloge optique fonctionne, ben, il n'y a pas de nuages. Et donc soit on utilise des techniques micro-ondes, soit on utilise des techniques optiques cohérentes qui utilisent encore l'aspect cohérent du laser. Mais cette fois-ci, on a une propagation qui est plus gênée par les nuages puisqu'on se propage dans une fibre. Donc ça, c'est quelque chose qui a émergé ces 5 dernières années et qui est en train de monter en puissance à très très grande vitesse. Donc c'est exactement la même chose que le lien cohérent que je vous ai présenté juste avant, sauf qu'au lieu de se propager dans l'atmosphère, on se propage dans une fibre. Alors les premières expériences ont été faites sur des fibres dédiées. Par exemple, à Paris, on a une fibre entre l'Observatoire de Paris, le site du Jussieu et puis le laboratoire de physique des lasers à Villetaneuse, au nord de Paris. Cette fibre dédiée a permis de faire des tests de faisabilité. Le problème, c'est que si on se dit on veut faire une comparaison entre Paris et la PTB en Allemagne, qui est à côté d'Hanovre, ça va être difficile de tirer une fibre dédiée pour notre expérience entre Paris et Hanovre. Donc, il y a eu plusieurs solutions proposées. Donc, nos collègues allemands, eux, ont, je pense, quelque part profité du prix Nobel de Ted Hensch pour développer des liens fibrés dédiés. C'est-à-dire, ils ont des fibres dédiées, mais le coût de location de la fibre est très, très cher. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Donc, c'est pas secondaire. Et en France, en fait, on a choisi une autre solution. C'est-à-dire, on s'est dit, il y a plein de réseaux Internet qui existent déjà. Pourquoi pas utiliser ce réseau, cette infrastructure existante, développer des répéteurs dédiés pour notre application? Et donc, ne pas utiliser une fibre dédiée, mais simplement un canal dédié dans une fibre qui sert à transmettre des signaux, des données. Alors là, c'est des données scientifiques, puisque c'est le réseau RENATER, qui est le réseau scientifique français. Donc, ce n'est pas un réseau forcément de télécom grand public, mais c'est un réseau quand même de type Internet. Et donc, on utilise un canal dédié. Et aujourd'hui, on a finalement, en utilisant RENATER, un lien entre Paris et Nancy. Le but, c'est qu'on aille jusqu'à Strasbourg, jusqu'à la frontière allemande, et que les Allemands arrivent à Strasbourg de l'autre côté, qu'on connecte les fibres pour qu'on puisse comparer les horloges à chaque bout. Alors, l'avantage, évidemment, d'avoir un système de type RENATER, c'est que c'est plus souple. C'est-à-dire, si on veut aller vers Toulouse, au CNES, vers d'autres laboratoires en France, vers d'autres pays, c'est plus simple. Il n'y a pas besoin de retirer une nouvelle fibre. Donc, c'est une solution qui a été démontrée en termes de performance. comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est les mêmes performances que pour la propagation libre. Et là, c'est vraiment démontré en grandeur réelle, hein, sur 500 km. On a démontré la capacité de comparer des fréquences. Alors là, vous voyez qu'on est meilleur que les horloges optiques, de comparer des fréquences avec une résolution de 10-19 sur un jour. Donc là, on est content parce qu'on a un moyen de comparaison qui va permettre vraiment de mesurer la fréquence de l'horloge sans dégradation. Et l'étape supplémentaire qu'on a franchie il y a quelques semaines, c'est qu'on avait proposé finalement un réseau français métrologique qui utilise Rénater. On l'avait proposé dans le cadre des appels d'offres investissement d'avenir pour les équipements d'excellence et ça a été retenu. Donc maintenant, il y a du travail, mais disons que d'ici 10 ans, on espère avoir un réseau métrologique qui relie des laboratoires, d'autres utilisateurs, qui pourront avoir des signaux réalisés, construits au CIRT et disséminés, en tout cas transmis avec quasiment aucune dégradation. Juste une petite parenthèse pour revenir sur les affaires de neutrinos. Typiquement, si la fibre existe, hein, entre les deux bouts de l'expérience où ils ont mesuré la vitesse des neutrinos, c'est-à-dire les temps de propagation, donc il y a aussi une proposition de faire le même type d'expérience, c'est-à-dire de mesurer simplement le temps de propagation entre les deux bouts, puisque la fibre existe déjà pour se transférer des données. Donc, je suis presque à la conclusion, juste pour montrer qu'il n'y a pas qu'en France et en Europe, hein, tous les pays font des développements de liens fibrés, donc je ne vais pas donner les détails, mais c'est vraiment pour montrer que c'est une technique qui est extrêmement prometteuse, et effectivement, en Europe, on a vraiment le rêve, enfin le projet, voire le rêve, de construire un réseau métrologique européen qui s'appuie sur une infrastructure existante. Donc ça se fait petit bout par petit bout, parce qu'évidemment, chaque pays opère de façon différente ses réseaux scientifiques. Et certains pays ne voient pas forcément d'un bon œil qu'on rajoute nos signaux métrologiques à des transferts de données. Donc on a démontré en France, grâce à Rénater, qu'on ne perturbait pas du tout leur transmission de données, et inversement, que leur transmission de données ne perturbait pas nos signaux métrologiques. Donc j'en arrive naturellement à la conclusion. Donc j'espère vous avoir montré que c'est un domaine qui évolue très très vite, en particulier sur les horloges atomiques, mais aussi sur les transferts de temps fréquence, hein, puisque on continue cette fameuse amélioration des performances à raison d'un facteur 10 tous les 10 ans. Aujourd'hui, on est au niveau de sub-10, moins 16, moins 17 aux États-Unis. Et donc, on imagine que d'ici une dizaine d'années, on atteindra 10, moins 18 avec les problématiques de limitation par les fluctuations ou la connaissance du potentiel de pesanteur, hein, puisque c'est un centimètre sur la connaissance en altitude. Comme vous le voyez, il y a une très bonne complémentarité et une très bonne synergie, en particulier en Europe, entre tous les développements qui sont faits au sol et les développements qui sont faits pour les applications spatiales. Et ça, je pense que ça mérite d'être souligné. C'est-à-dire qu'il y a une très très bonne coordination, à la fois sur les aspects projets, mais sur les aspects R&D. Et au-delà des horloges atomiques, j'ai pas eu le temps de rentrer vraiment dans les détails, mais il y a énormément de concepts instrumentaux qui ont été développés, soit des sous-systèmes, comme des lasers stabilisés, comme des lasers femtosecondes, etc., ou des instruments dérivés. Alors, ce que j'appelle instruments dérivés, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est le fait que nos horloges atomiques sont des interféromètres sur des ondes atomiques. Et c'est comme en optique. Si vous changez l'architecture, la géométrie de l'interféromètre, vous mesurez autre chose. Si vous prenez un Michelson, vous mesurez une distance ou vous mesurez la petit g, l'accélération de la pesanteur. Si vous prenez un interféromètre de Sagnac, vous mesurez une vitesse de rotation. Et ben on fait exactement ça avec les interféromètres atomiques. Et donc, il y a toute une famille d'instruments dérivés des horloges, qui sont en particulier des capteurs inertiels, gravimètres, gyromètres, accéléromètres, qui ont été développés. Aujourd'hui, il y a un gravimètre qui fonctionne en continu, qui mesure petit g au même niveau que les gravimètres optiques. Donc on imagine que c'est vraiment des instruments qui seront intéressants pour des applications qui sont autres que simplement la métrologie temps fréquence, par exemple pour les détections des ondes de gravitation ou la géophysique. Et donc sur les aspects liens, on voit bien qu'en parallèle avec l'amélioration des horloges, il faut soutenir et maintenir les efforts sur le développement des nouvelles techniques de temps fréquence, mais aussi le déploiement. C'est-à-dire que le problème des techniques spatiales, c'est qu'il faut avoir accès aux satellites, ce qui n'est pas forcément simple. Le problème des techniques fibrées, c'est qu'il faut avoir accès aux réseaux fibrés. Donc on voit bien qu'il n'y a pas juste la démonstration de faisabilité dans un labo qui est importante, mais aussi le déploiement pour avoir le plus grand nombre d'utilisateurs qui peuvent profiter de ces technologies. Le but, c'est d'atteindre quand même des bruits sub-picosecondes. Hein. On a vu 100 femtosecondes en termes de bruit intense, ce qui correspond à 10-18 en fréquence. Et ce qui est sûr, c'est que le système idéal mondial pour comparer des horloges tout autour de la Terre, ce sera un système hybride qui va combiner des méthodes optiques et des méthodes micro-ondes, parce que les effets systématiques ne sont pas les mêmes. Micro-ondes, c'est plus facile d'acheter une antenne que de tirer au laser quand on est à Paris. La propagation libre et la propagation guidée, ça aussi c'est important de pouvoir combiner les deux. Et les applications de ces nouveaux types de transferts de temps, ben là aussi elles sont variées. Ça peut être des comparaisons d'horloges optiques installées au sol et ou dans l'espace. Tout ce qui est vol en formation, on a vu qu'un transfert de temps exact, permet de faire du ranging extrêmement précis, donc permet de faire du vol de satellites en formation. Et d'imaginer même, alors c'est peut-être un rêve au-delà des 10 ans, j'imagine, mais d'avoir des constellations GNSS autonomes, c'est-à-dire d'avoir des horloges qui sont dans la constellation GPS ou Galileo, qui comparent leur temps et leur fréquence de façon autonome sans repasser par le sol, ce qui est le cas aujourd'hui. Et ça, on pourrait imaginer d'avoir un système de référence satellitaire autonome, et on vient se repérer par rapport à ce système autonome, ce qui serait un pas par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Donc je m'arrêterai un petit peu sur cette vision vraiment d'avenir, et puis je vous remercie pour votre attention. Merci.
C'était Noël Dimarcq, directeur du système de référence temps-espace, dont la communication portait sur les horloges atomiques et les transferts de temps ultra-stables, une conférence donnée en février 2012 au Bureau des Longitudes à l'Institut de France. Nous vous proposons de rester à l'écoute de nos retransmissions en téléchargeant dès maintenant les autres conférences du Bureau des Longitudes sur le site de Canal Academy dans les émissions en colloque rubrique science. Et je vous rappelle enfin que les conférences du Bureau des Longitudes sont ouvertes au public. Et pour connaître les prochaines dates, il vous suffit de vous connecter sur leur site bureau-des-longitudes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions. Thank you.